Simple Colombe, Mémoire d'une novice récidiviste, troisième partie, Quelques pas sur d'autres planètes. Émissaire de charme d'une nouvelle communauté. Quand tu devras aller à droite ou à gauche, tes oreilles entendront celui qui te dira « Voici le chemin, prends-le. » Isaïe, chapitre 30, verset 21. Excusez-moi, ne feriez-vous pas partie d'une communauté ? Un groupe de 6 ou 7 jeunes filles gracieuses et très différentes les unes des autres avait fait éruption dans ma boutique en cet été 2002. Ma question ne se fondait pas sur un habit religieux distinctif ou sur une allure particulière. Certes, à 100 mètres de distance, j'identifiais sans peine les sœurs, censées pourtant être en civil, de certaines congrégations apostoliques vieillissantes qui avaient abandonné le port de leur habit religieux. Robes synthétiques bariolées et sans âge, cheveux ras, pantalons de grand-mère, absence de maquillage et de bijoux, assemblage hétéroclite tiré des puces, décalage complet par rapport à la mode actuelle, féminité brillant par son absence. La moindre harmonie vestimentaire aurait vraisemblablement été considérée comme un crime contre la pauvreté et la simplicité évangélique et la preuve d'une chasteté douteuse. L'oubli absolu de soi et la négation de l'individu devaient être la vertu suprême du christianisme. La beauté semblait s'opposer à la sainteté dans une dialectique qui me semblait à moi diabolique. Me permettra-t-on de penser qu'une religieuse qui fait pitié à force de se rendre moche ne glorifie guère le Christ, le plus beau des enfants des hommes? Personnellement, j'étais convaincu que la Vierge Marie était pleinement femme et Jésus-Christ pleinement homme, et que tout, dans leur allure extérieure, leur psychisme et leur façon d'être, correspondait à cette identité assumée avec amour, sans aucune confusion et en toute harmonie. Pourquoi mépriser notre corps ou l'allure extérieure que nous présentons à notre prochain quand on se réclame de la religion de l'incarnation? Notre esprit n'appréhende-t-il pas le monde à travers les sens? Les enfants eux-mêmes sont sensibles à la beauté et au message qu'elle véhicule. Dans la Bible, au premier chapitre de la Genèse, le terme hébreu traduit par « bon » peut également signifier « beau ». Dieu vit que cela était très beau. Du reste, l'habit religieux féminin ancestral, avec son côté sobre, couvrant, et son voile protecteur, me semblait la traduction naturelle et atemporelle de ce désir d'imiter la Vierge, si belle et si sainte, cachée aux yeux du monde et connue de Dieu seul. N'était-ce pas aussi un message prophétique très parlant pour ceux qui voient les consacrés? Il évite bien des longs discours et rejoint le propos de pauvreté en dispensant d'avoir à suivre la mode. Ces plis ont un côté liturgique qui sacralise le corps, temple du Saint-Esprit. Une étroitesse excessive de cet habit me paraissait même la traduction d'une mesquinerie cachée où la gratuité est absente. Celui qui revêt les lys des champs ne pouvait-il pas habiller ses élus? Ne pouvait-il pas les mettre au large, comme dit un psaume? Je n'ignore pas bien sûr que cette étroitesse a souvent été décidée par pauvreté ou souci de modernité. Les jeunes filles charmantes répondirent « Oui, nous sommes de la communauté des Béatitudes de Nouhans-le-Fuselier. Nous passons des vacances dans la région. Ah, ça tombe bien! Je connais une personne qui se pose beaucoup de questions au sujet de cette communauté. Vous allez pouvoir m'aider à lui répondre. » La personne, c'était moi. Après mon entretien du 11 novembre 1988 avec notre mère prieure, l'âme déchirée, je n'avais su que devenir. Convenait-il donc qu'à cause de ma santé déficiente, je quitte cette maison de Dieu où j'avais rêvé de rester jusqu'à mes derniers jours. Aucun miracle de guérison n'était-il à attendre? Et qu'allais-je devenir si je retournais dans le monde sans aucune motivation? Étais-je rejeté par mon Créateur? Et pourquoi? Quelle faille cachée me rendait abominable à ses yeux? Devais-je repenser la question concrètement et me tourner vers une autre communauté qui aurait peut-être des atouts inédits et me permettrait de réaliser ma vocation religieuse? Après des jours de ce dilemme et de prières sans réponse, j'ouvris au hasard les œuvres complètes de sainte Thérèse d'Avila, mère spirituelle, dont l'exemple et les paroles de feu m'avaient conduite au Carmel. Voilà des mois que je n'avais pas touché ce livre de plus de 1600 pages. Or, comme mu par une force invisible, je pointais le passage suivant. Oh, quelle charité elle ferait, la religieuse qui, se voyant incapable de suivre les usages de cette maison, se l'avouerait sincèrement et s'en irait du monastère. Oui, qu'elle parte, mais qu'elle ne se plaigne pas de moi, et ne m'accuse point de ne l'avoir point prévenue. Choc. Cette mystique ne passait tout de même pas son temps à supplier ses filles de quitter ses couvents. Et voilà que je tombais précisément sur un tel passage. Du reste, je ressentais auprès de moi comme une présence de la Madre Teresa, et les paroles en question, qui pouvaient être lues de façon tranchante et sèche, m'étaient murmurées avec une douceur et une tendresse ineffables, sans oublier une pointe d'humour. La situation décrite ne correspondait pas exactement à la mienne, mais ces lignes constituaient un déclencheur que je ressentais comme inspiré à cet instant. Ma décision était prise. Je ne pouvais plus longtemps tergiverser sans y épuiser complètement ce qui me restait d'énergie et de santé. Je retournai donc, à l'expiration de mes vœux temporaires, dans le monde où je vécus des expériences de réinsertion qu'il serait trop long de détailler. Cours de remise à niveau en secrétariat, au milieu de femmes sur la quarantaine qui avaient vécu des bouleversements dans leur parcours. Emploi de secrétaire réceptionniste chez un notaire acariâtre. Démission libératrice. Nouvel emploi dans un établissement scolaire privé où il m'était interdit d'aborder mon passé avec mes collègues. Tabous et fuites incessantes, nouvelle démission à la fin de l'année scolaire. Puis, comme Monopoly, retour à la case départ. De fait, je ne comprenais rien à ces chemins tortueux et à ces expériences professionnelles apparemment stériles. Je n'avais pas assez expérimenté que le vrai noviciat auquel nous sommes soumis est celui de l'existence, les vrais vœux perpétuels ceux du salut final, et que se vouloir ou se croire professe, tandis que l'on est encore en chemin, est la preuve que l'on n'a pas même commencé. Saint François de Sales. Parole drôle peut-être, mais d'une terrible exigence. Je me sentais déconcerté par le peu de sens apparent de ma réinsertion, et je pensais que, ma santé refaite, je pourrais marcher de nouveau sur les traces de mon élan initial. De fait, le feu sacré couvait toujours là, sous un léger manteau de cendre. Accepté de nouveau au Carmel de mes amours, la prieure avait changé, j'y pris encore une fois l'habit. Mais cette solution n'était pas viable sur le long terme, et j'allais m'en rendre compte. En ce matin du 21 mars 2002, étrangement, j'avais senti un bouleversement mental, une surexcitation sans cause apparente que je n'avais jamais connue. Pourtant, j'étais assis sur un tabouret, occupé à écouter une conférence avec la communauté, chose qui me plaisait énormément à l'accoutumée. Or, dans mon malaise, pour la première fois de ma vie, j'ai même demandé alors la permission de quitter la pièce. La permission me fut refusée. Pour me calmer, je calligraphiais, en marge de mes prises de notes, les prières chrétiennes de base et les enluminait de dessins. Le texte du pater était achevé. J'avais écrit celui de l'Ave Maria. Il me restait les mots en latin qui concluent la prière à Marie. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je n'eus pas le temps d'enluminer les mots « à l'heure de notre mort » qui se détachèrent à tout jamais de mon texte. Moins d'une heure plus tard, la prieure m'annonça la nouvelle qui lui avait été communiquée par téléphone. Ma mère venait de mourir dans des circonstances tragiques. Dans les mois qui suivirent, sans vouloir entrer dans les détails, je vis à l'évidence que ma santé ne s'améliorait pas et qu'il me fallait donc penser sérieusement à une autre communauté. L'acharnement pouvait m'être fatal. Après tout, simple novice, je n'étais lié par aucun vœu. Je songeais alors à la communauté des Béatitudes, dont je lisais avec plaisir, depuis des années, les publications si justes et si riches. Bien des questions me restaient toutefois. Il faut savoir que cette communauté rassemblait différents états de vie sous le même toit. Prêtres, consacrés, hommes et femmes, célibataires, gens mariés, avec leurs enfants, dans l'objectif d'imiter la communauté chrétienne primitive et son esprit de communion. Or, je craignais que le côté 68art des origines n'ait laissé des séquelles. Ah, ces photos de groupe des années 1970, où des barbus hirsutes côtoyaient des nymphes aux longs cheveux et aux longues jupes. Était-ce bien catholique? Quelles mœurs avait-il? Sur l'une des photos actuelles qui me tomba entre les mains, je regardais avec une extrême attention l'expression des enfants. Un visage d'enfant trahit souvent la maltraitance ou reflète l'amour dont il est entouré. Un visage d'enfant ne sait pas tricher et n'est jamais maquillé. Je fus rassuré en constatant qu'ils avaient l'air très épanouis et bien portants, ces bambins aux yeux vifs et pas misérables comme je le craignais. On ménagea ma transition selon les dispositions des constitutions et la proposition de la prieure. Après un séjour convenu d'un mois à Nouhans-le-Fuselier, j'y retournai, quittant définitivement le Carmel, où j'avais passé plus de 11 ans discontinus. De ma nouvelle communauté, j'appréciais le dynamisme missionnaire et intellectuel, les offices liturgiques au-dessus de tout ce que j'avais connu ailleurs, la dévotion au Saint-Sacrement et au sein de l'Église, le côté populaire, la jeunesse des membres, la richesse des enseignements qui faisaient le pont avec le judaïsme et la psychologie contemporaine, l'accueil des pauvres et des pèlerins, ainsi que la simplicité des relations fraternelles. Je travaillais à la lingerie et à la cuisine, à l'accueil et à l'hôtellerie, fit des ménages et des bouquets liturgiques. On me donna la possibilité, et le conseil, d'effectuer des retraites d'une semaine environ dans d'autres réalités d'église. Je voyageais ainsi des fraternités monastiques de Jérusalem à Paris, à la communauté du Verbe de vie à Solignac, sans oublier les petites sœurs de l'Agneau à Plavilla-Saint-Pierre et d'autres lieux encore. En vain. Je comprenais que ce n'était pas pour moi. Mais à la communauté des Béatitudes aussi, le berger me fit rapidement comprendre que ma santé n'était pas estimée suffisante et que Jésus m'attendait ailleurs. Je n'ai rien contre cette parole, qui peut être extrêmement profonde et éclairante, mais elle avait dans mon psychisme des résonances de « va voir ailleurs si j'y suis ». Avec le recul, ce qui semblait à nouveau un événement négatif me fera pousser un ouf de soulagement et bénir le ciel. J'échappais ainsi à la grave crise qui allait secouer cette communauté tant aimée après mon départ, à la suite de la révélation des abus lamentables de son fondateur notamment. Au passage, je ne peux cacher ma colère devant les dévoiements de certains fondateurs de communautés catholiques qui virent au gourou. Qu'ils sachent que Dieu, encore plus que les hommes, leur demandera des comptes. Que de vies brisées par leurs inconséquences, que de scandales donnés aux petits et aux humbles. Après avoir bien commencé pour la plupart, ils ont souillé l'œuvre de Dieu et considérablement ralenti, apparemment, l'expansion de son royaume. J'ai aussi trop d'estime et de compassion pour tant de personnes honorables et bonnes que j'ai connues dans ces communautés pour essayer de justifier les fautes de leurs fondateurs. Si au moins ces derniers avaient le courage de regarder leurs péchés en face et d'en faire repentance, ne croient-ils donc plus à la miséricorde infinie du Christ, au sacrement institué pour la résurrection des pécheurs à la vie de la grâce? Ne voient-ils pas son regard plein d'amour et de douleur, qui les suit dans leurs errances? Leur attitude de déni et d'auto-justification insensée les conduit à devenir ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Cela fait peur, bien sûr. Marchons dans l'humilité, en regardant où nous posons les pieds. Nous aussi, nous sommes capables du pire sans la grâce. Que celui qui se flatte d'être debout prenne garde de tomber, nous avertit l'apôtre. Rien n'est encore joué. En ce monde où tout est mobile et fluctuant, selon l'adage favori de mon ami Nora, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais perdu. Et tout compte fait, si le Saint-Esprit est passé par ses fondateurs lorsqu'ils étaient humbles et dociles à sa voix, il est consolant de voir qu'il peut également fort bien se passer d'eux, contrairement à ce qu'une adulation, excessive parfois, aurait pu laisser entendre. Le cruel laminage que constitue ce genre d'épreuve et d'humiliation publique pour les membres d'un ordre religieux ou d'une communauté peut se traduire en humilité profonde, disposition incontournable pour que le Très-Haut agisse à travers les hommes et déploie sa puissance. Non, il n'existe pas de communauté fondamentalement pure et sainte qui puisse s'enorgueillir au détriment des autres. Toutes, en dépit de la noblesse plus ou moins grande de leur finalité et des moyens mis en œuvre plus ou moins adaptés, de leur niveau de ferveur à géométrie variable, sont composées de faibles mortels, avec leurs failles, leurs blessures, leurs limites de tous ordres. Et celles-ci sont d'autant plus grandes qu'ils n'en ont pas conscience. Rien, en effet, de plus opposé à la miséricorde et à la justice que l'orgueil d'un parvenu spirituel. Le père Bianchetti me déclara un jour avec son bon sourire un peu désenchanté « Ma petite sœur, partout où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. » Ce n'est pas pour rien que l'Évangile nous met en garde contre la tentation de se constituer en communauté de purs inamovibles en préjugeant des intentions profondes des cœurs et de l'évolution imprévisible des personnes qui relèvent de la science divine. La parabole du filet montre que dans l'Église cohabiteront des bons et des mauvais poissons jusqu'à la fin des temps et que ce sont les anges qui sont chargés de procéder au tri final. En même temps, l'Évangile invite paradoxalement avec la même force et en bien des endroits à la correction fraternelle pouvant aller jusqu'à l'exclusion du groupe de ceux qui enfreignent publiquement la morale chrétienne fondamentale ou rejette ostensiblement un dogme de la foi. Aucun groupe humain ne peut survivre longtemps s'il est divisé de l'intérieur sur des points fondamentaux. Les églises particulières, à ce titre, sont des groupes humains comme les autres, et saint Jean nous avertit dans son Apocalypse qu'elles peuvent voir leur chandelier changer de place. L'histoire des peuples, plus cruelle encore, nous montrent qu'elles peuvent tout simplement disparaître, faute de fidèles cohérents. Je ne parle évidemment pas ici des martyrs et des innocentes victimes de génocide. C'est un autre sujet. Après une énième réinsertion rapide en 2005 et une nouvelle expérience sommaire de travail, je tentais d'intégrer une autre communauté nouvelle dont je connaissais très bien le fondateur. Elle était située dans un site de montagnes enchanteurs, où les sommets se relayaient avec force, comme les vagues d'une mer pétrifiée, au milieu des troupeaux de moutons, de prés argentés par des oliviers tordus, de bois de feuillus et de garrigues, que des genêts impressionnistes tachaient de jaune. Cette nouvelle communauté catholique, mixte, alternait vie contemplative et mission ponctuelle d'évangélisation. Ce dernier point me plaisait particulièrement. Mais là aussi, au bout de 3 ans, le verdict négatif tomba, sous forme d'un premier retardement de 6 mois, avant l'émission éventuelle de mes vœux temporaires. Ce fut un signe décisif. Après toutes mes attentes et ma quête, ce nouveau délai constituait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Au-delà, du reste, de toute attitude de colère, je comprenais que ma démarche n'aboutirait pas. Par conséquent, après avoir demandé quelques mois pour faire un travail sur moi-même, comprendre, si faire se peut, ce que l'on me reprochait, et me retourner, je résolus de partir.